Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Petit zoom aujourd'hui sur la lumière. Dans le sens commun, la lumière, c'est le phénomène à l'origine de la sensation visuelle. La physique montre qu'il s'agit d'ondes électromagnétiques. Le spectre visible, c'est la zone du spectre électromagnétique à laquelle est sensible l'espèce humaine. On parle parfois de lumière visible, et ça sous-entend qu'il y a du coup une lumière invisible. C'est ainsi qu'on parle de lumière noire, de lumière ultraviolette et de lumière infrarouge pour les rayonnements électromagnétiques dont la longueur d'onde est légèrement plus grande ou plus petite que la lumière visible. La lumière, y compris ses rayonnements invisibles, transporte une grande partie de l'énergie solaire jusqu'à la surface de la Terre et maintient l'équilibre de notre environnement naturel avec la régénération de l'oxygène par la chlorophylle des plantes. La lumière se déplace en ligne droite dans le vide à une vitesse strictement fixe. Dans les autres milieux, la propagation, toujours plus lente, peut dépendre de la longueur d'onde. On parle alors de milieu dispersif. La lumière est un peu plus lente dans l'air que dans le vide, et elle est beaucoup plus lente dans l'eau. La présence de particules entraîne la diffusion des ondes lumineuses, et c'est ça qui cause la couleur bleue du ciel. Lorsque la lumière pénètre dans l'atmosphère, elle entre en contact avec les molécules qui constituent l'atmosphère. Les photons de lumière percutent ces molécules et rebondissent dessus. Ils s'éparpillent dans différentes directions, en fonction de leur longueur d'onde, et donc en fonction de la couleur. Les particules vont alors dévier la lumière en fonction de sa longueur d'onde, un peu comme un prisme. Plus la longueur d'onde est basse, plus elle sera diffusée facilement. Ainsi, les couleurs de courte longueur d'onde, telles que le bleu, seront très diffusées dans l'atmosphère. Elles seront envoyées de tous les côtés. Alors que celles de grande longueur d'onde, comme le rouge, continueront à traverser en ligne droite. Le ciel prend donc une couleur bleue, c'est la couleur qui est diffusée, et le soleil passe du blanc, qu'il est à l'origine, au jaune. Car une partie de ces longueurs d'onde bleues ont été diffusées dans l'atmosphère. Au coucher du soleil, l'effet de dispersion augmente, car la lumière doit voyager sur une distance plus importante à travers l'atmosphère. La lumière verte d'abord, puis la lumière jaune, sont affectées, jusqu'à ce que finalement la seule lumière que nous puissions voir, ce soit le rouge-orangé, que prend alors le soleil. L'arc-en-ciel est le phénomène naturel qui nous dévoile la complexité de la lumière visible. Il se produit surtout lorsque le soleil est bas sur l'horizon et que le temps est nuageux ou pluvieux. Il arrive aussi que l'arc-en-ciel apparaisse sur des cascades ou même sur de l'eau vaporisée à l'aide d'un jet d'eau par exemple. Le point commun, c'est de l'eau en suspension dans l'air et surtout la lumière blanche du soleil. Le spectre de la lumière devient tout à coup perceptible. Et il s'étend du rouge au violet en passant par toutes les couleurs principales que sont l'orange, le jaune, le vert, le bleu et l'indigo. Pour que l'arc-en-ciel apparaisse, il faut que la lumière provenant du soleil se reflète sur des gouttes d'eau, selon un angle d'environ 40 degrés. Les gouttes d'eau ne réagissent pas tout à fait comme un miroir, sans quoi c'est le reflet du soleil lui-même qui serait observé. Mais elles réagissent plutôt comme un prisme qui réfracte la lumière en un spectre multicolore. L'observateur est donc toujours situé entre le soleil qu'il doit avoir derrière lui et le sommet de l'arc-en-ciel qui se montre devant lui. La lumière a interrogé les hommes depuis longtemps. Les premières études expérimentales sur la lumière remontent à l'Antiquité. La propagation en ligne droite, la loi de la réflexion, sont connues depuis l'époque d'Aristote. Cependant, la philosophie hésite quant à la nature de la lumière. L'expérience humaine ordinaire ne permet pas de décider si un objet est visible lorsque personne ne le voit. Chez les Grecs, on rencontre la théorie de l'extramission, qui considère la vision un petit peu comme un sens proche du toucher, dans lequel des rayons de lumière, rectilignes, impalpables, sortent de l'œil pour aller palper les objets. La nature, la vitesse et la composition de la lumière sont des grandes questions qui dureront longtemps encore. Autour de l'an 1000, le savant perse Ibn al-Attay, de son nom latinisé Alhazen, rédige à Bagdad son traité d'optique. Il est le premier à penser que la lumière se déplace à une vitesse finie, et en particulier que cette vitesse est plus élevée dans les milieux de faible densité. La traduction latine d'une partie de son œuvre alimente la science occidentale encore quelques siècles plus tard. Et l'optique bascule brutalement avec la découverte fortuite des lentilles par des artisans italiens, vers la fin du XIIIe siècle. L'allemand Johannes Kepler résume l'ensemble des connaissances de l'optique dans son ouvrage « Dioptrice », après avoir vérifié les travaux de Galilée. L'étude de la lumière se confond alors, un temps, avec celle des instruments permettant de voir les objets lointains ou minuscules. Au XVIIe siècle, Fermat et Descartes abordent la lumière par l'optique géométrique. Fermat est parmi les premiers à affirmer que la vitesse de la lumière est finie en Europe. En 1676, Rohmer, un astronome, calcule la vitesse de la lumière pour la première fois à partir des décalages de l'orbite de Io par rapport aux prévisions. Huygens, lui, va s'appuyer en 1677 sur les lois de Snell-Descartes pour opter pour une nature ondulatoire de la lumière. Dans son ouvrage Optics, Isaac Newton va lui pencher pour une nature corpusculaire. Les faisceaux lumineux qui se propagent dans l'éther sont une succession de grains de lumière, dont la taille est reliée à la couleur. Ses travaux sur la décomposition de la lumière blanche transforment radicalement la conception de la couleur. La lumière blanche, qui d'abord était supposée primordiale, se révèle être la composition de rayonnements colorés. Au XVIIe siècle, le physicien français Hippolyte Fizeau mesure la vitesse de la lumière dans une expérience à l'aide d'une roue dentée. Je vais essayer de vous la raconter. La roue dentée est mise en rotation. Il y a une source lumineuse derrière cette roue dentée. On veut que la lumière franchisse une échancrure de la roue, parcourt une distance d, se reflète dans un miroir et reparcourt cette même distance pour arriver à nouveau sur la roue dentée. Mais celle-ci, entre-temps, a légèrement tourné. Donc, soit la lumière réfléchie peut tomber sur une dent et être bloquée, soit elle passe par l'échancrure suivante. En mesurant le temps qu'il a fallu à la roue pour devenir bloquante à partir de sa vitesse et à partir de la distance parcourue, qui, elle, est connue, on peut calculer la vitesse de la lumière. Fizeau va réaliser son expérience en 1849, entre Montmartre et le clocheton de la maison de villégiature de son père à Suresnes, sur les bas du coteau du Mont Valérien. Ces deux points sont distants d'exactement 8633 mètres. La lumière de la lampe passe dans une première lunette. Elle se réfléchit dans un miroir incliné qui va diriger les rayons vers la roue dentée. Ce miroir est semi-transparent et c'est important pour la suite. La lumière passe donc dans la roue dentée, puis part pour un voyage de 8633 mètres vers une seconde lunette sur la butte de Montmartre. Cette deuxième lunette est munie d'un miroir qui lui permet de renvoyer la lumière là d'où elle vient, à Suresnes. La lumière est alors récupérée par la première lunette. Elle passe à nouveau dans la roue dentée par une des échancrures, traverse le miroir semi-transparent, puis est observée par Fizeau. Lorsque l'on tourne très lentement la roue, tout en regardant dans l'oculaire, on observe l'éclat de la lumière qui apparaît et disparaît en alternance, selon que les dents de la roue font obstacle ou pas au faisceau lumineux. Lorsqu'on accélère la roue, l'alternance entre les périodes lumineuses et obscures s'accélère. Le clignotement disparaît pour ne laisser qu'une tache lumineuse continue. La rémanence de la lumière sur la rétine ne permettant plus de distinguer les phases où la lumière ne passe plus. Si on accélère encore la roue et qu'on dépasse 12 tours par seconde, il arrive un instant, à 12,6 tours exactement, où le temps que la lumière met pour parcourir la distance Suresnes-Montmartre-Suresnes, soit un petit peu plus de 17 km/h, correspond à la durée exacte d'une demi-dent. C'est-à-dire que le faisceau lumineux passe par une échancrure, et quand il est réfléchi et qu'il revient, il est bloqué par la dent qui suit. Le faisceau est donc occulté, il ne parvient plus à l'observateur, l'observateur ne voit plus la lumière. Fizeau peut alors déterminer, grâce à des compteurs, la vitesse de rotation de la roue, qui permet à la lumière de traverser une première fois mais d'être occultée à son retour. Il accumula les résultats de 28 observations et obtint une moyenne de 7948 lieues, soit 315 300 km à la seconde. Ce qui ne représente que 5% d'erreur, la vitesse de la lumière étant d'un petit peu moins de 300 000 km à la seconde. En 1873, James Maxwell interprète la lumière comme étant un phénomène électromagnétique. Les recherches de la physique sont dès lors entièrement détachées de la lumière visible. Les équations de Maxwell permettent de développer une théorie générale de l'électromagnétisme. Elles s'appliquent aussi bien à la propagation de la lumière qu'au fonctionnement d'un électroaimant. On démontre que les lois de l'optique géométrique ne sont qu'un cas particulier. En 1905 arrive Albert Einstein. Il publie sa théorie de la relativité restreinte où il étudie les conséquences mathématiques du principe physique selon laquelle la vitesse de la lumière a la même valeur dans tous les référentiels galiléens. Einstein reprend l'idée que la lumière peut avoir une nature corpusculaire. L'étude de l'interaction rayonnement-matière donne naissance à la mécanique quantique et au concept de dualité onde-corpuscule pour ces rayonnements. La lumière est bien sûr d'une importance cruciale en astronomie. Elle est en effet la seule information qui nous parvienne des étoiles. Grâce à elle, les hommes sont capables d'en apprendre énormément sur les corps célestes. La couleur, l'intensité, les spectres, d'autres caractéristiques de cette lumière peuvent révéler la composition chimique, la température, la masse, la distance des objets astronomiques, mais aussi leur déplacement. Par exemple, la lumière des étoiles lointaines peut être utilisée pour mesurer le décalage vers le rouge, qui est une indication de leur éloignement et de l'expansion de l'univers. Quand nous sommes sur Terre, nous ne recevons pas tout le rayonnement électromagnétique émis des étoiles. L'atmosphère terrestre ne laisse passer qu'une partie de ce rayonnement. Ce filtre joue un rôle très important dans l'évolution de la vie organique sur la Terre. Les ondes courtes sont absorbées par les couches atmosphériques et les ondes longues se réfléchissent sur elles, ce qui permet aux grandes ondes des émetteurs terrestres d'être captées à longue distance, car elles se réfléchissent sur l'atmosphère et peuvent ainsi être captées loin malgré la courbure de la Terre. Heureusement pour les astronomes, l'atmosphère laisse passer non seulement la lumière visible qui nous permet d'observer les étoiles, mais aussi une gamme de rayonnement dans l'infrarouge, ce qui permet la pratique de la radioastronomie. Les débuts de la radioastronomie découlent de la découverte accidentelle en 1933 par Karl Jansky de signaux d'origine cosmique. Cet ingénieur, travaillant dans le laboratoire de recherche et de développement de la compagnie de téléphone américaine Bell, observe des signaux radio qui reviennent tous les 23h et 56 minutes, soit un jour sidéral, la durée de rotation de la Terre. Il comprend que cette périodicité implique que la source de signaux radio sont les étoiles. Il arrive à déterminer qu'une émission radio provient du centre de la galaxie, sur une longueur d'onde de 15 mètres. Il faudra attendre les années 60 pour voir radioastronomie prendre son essor et nous apporter des informations capitales sur la connaissance de notre univers. Dans des domaines comme la structure de notre galaxie, via la mesure de répartition de l'hydrogène atomique, sur les processus physiques au sein de notre Soleil, sur la composition, l'évolution des nuages de gaz interstellaires, sur les pouponnières d'étoiles, sur la structure et l'évolution des galaxies, la détermination des paramètres cosmologiques de l'univers, comme par exemple l'analyse du fond diffus cosmologique. Un domaine tout à fait passionnant qui nous promet de belles découvertes encore.